Le Chant des Grenouilles, chapitre 2. Une histoire qui retrace la vie des paysans, paysannes, ouvriers, ouvrières et travailleuses des rizières du nord de l'Italie entre 1900 et 1910. Rencontre avec Céline Gulgonen, Audrey Penado et Lorenzo Valera.
Des grenouilles, c'est donc un spectacle en plusieurs épisodes. Là, c'est le deuxième épisode. Et ce qu'on fait, c'est qu'on part des chants populaires italiens traditionnels dans ce chapitre-là du début du XXe siècle. Et à partir de ces chants, on arrive à puiser, à trouver une matière qui permet de faire une histoire populaire d'Italie, en particulier une histoire des luttes sociales. Qu'on raconte à partir de ce matériau qui est un matériau chanté. Le premier chapitre, on l'a déjà fait dans l'autre. On racontait cette histoire à partir du début de l'unité d'Italie, qui est donc en 1860, parce qu'avant, l'Italie s'était constituée de petits royaumes. On est parti de ce moment-là, on est arrivé jusqu'au début du XXe siècle, l'assassinat du roi Umberto II par l'anarchiste Gaetano Bresci. Et donc là, dans ce second chapitre, on part de cette date, donc 1900, et on va jusqu'à la montée du fascisme.
Alors, entre 1900 et 1910, que s'est-il réellement passé en Italie ? Est-ce que l'histoire était si éloignée que ça de notre histoire à nous, française ? Où il s'est passé vraiment des choses particulières. Et puis le rôle des femmes aussi, j'aimerais bien qu'on en parle.
Par rapport à la France, à l'histoire de France, oui, il y a des vraies différences parce que l'Italie, au niveau de l'industrialisation et au niveau économique, était arriérée par rapport à la France. Je crois qu'il y avait plus ou moins une centaine d'années de retard par rapport à l'industrialisation. Donc l'histoire qu'on raconte, ça peut paraître un peu bizarre de penser que les conditions dont on parle, le taux d'analphabétisme, les conditions économiques, à savoir que un des données qu'on cite dans le spectacle, c'est qu'au début du XXe, la moitié des Italiens, la moitié de la population italienne, c'était des travailleurs saisonniers. Donc des gens qui vendaient leurs bras. Donc sans contrat de travail, sans aucune forme de d'état social, etc. Donc effectivement, il y a des vraies différences. De l'autre côté, si on voit du côté des luttes, par contre, c'est la naissance du syndicalisme révolutionnaire et il y avait des grosses connexions avec ce qui se passait en France. La France était considérée à l'époque un peu le pays d'où venaient les nouvelles idées. À partir de la Révolution française, on rêvait d'une révolution dans laquelle finalement on aurait pu remettre les puissants à son niveau, à sa place. Et effectivement, beaucoup d'idées nouvelles révolutionnaires arrivaient de la France. Donc quand même, il y a des connexions. Il y a, de ce point de vue, il y a des connexions, des luttes. Ouais. Et par rapport au rôle des femmes, si tu veux répondre un peu dans cette histoire.
Le rôle des femmes, la particularité qu'on a là, c'est qu'il y a tout un collectage qui a été fait en Italie dans les champs. Et après, on parle aussi du travail qui a été fait, de revendications et de recherche de droits par les mondines, qui sont ces travailleuses, ces femmes qui travaillaient dans les rizières. Et il y a tout un collectage et tout un savoir qui est fait, et que là, pour le coup, moi, j'ai découvert cette histoire en travaillant ce spectacle. Mais j'imagine qu'il y a eu des luttes comme ça, mais en tout cas, il n'y a pas, en France, je ne crois pas qu'il y ait eu un regroupement de femmes travailleuses identifiées comme celle des Mondines.
Fratelli, pugniamo da forti contro i vili tiranni borghesi, ma come fece Caserio e compagni, che la morte l'han diede a incontrar, non vogliamo più servi e padroni, l'eguaglianza sociale vogliamo, ma quelle terre che noi lavoriamo, a noi tutti le spese ci fa la mia testa schiacciatela pure di Caserio. Forte dei tuoi, presto, presto schiacciarvi dovrà.
Et comment vous avez effectué ce collectage justement d'informations, de chants? Vous êtes allé chercher vraiment dans des archives, comment ça s'est passé ce travail?
Alors c'était pas facile comme travail, parce que pour une contre-histoire, il faut consulter des contre-sources. C'est pas toujours facile de les trouver. C'est pas l'histoire qu'on trouve dans la plupart des livres d'histoire. La chose, moi, je parle de moi parce que c'est moi que j'ai commencé à imaginer cette histoire. À l'époque, avec un groupe à Milan, un groupe en Italie, ça fait déjà un peu de temps. C'était en 2006 qu'on a commencé à imaginer. On a plein de chansons qui racontent des histoires. On raconte ces histoires. Est-ce qu'on pourrait arriver à faire une histoire, une chronologie de ces chansons, et à travers les chansons rentrer dans l'histoire? Donc les chansons, c'est des chansons qu'on chante depuis longtemps, qu'on a appris dans plein de façons différentes. quelqu'un nous les a chantés, des collectages, des disques et tout ça. Après, on a dû creuser un peu, on a dû chercher les livres qui parlaient de l'histoire, mais ce n'est pas simplement une histoire qui raconte une autre histoire, c'est un autre point de vue sur l'histoire, parce que dans la plupart des livres d'histoire, surtout les livres d'histoire sur lesquels on a étudié l'histoire, nous à l'école, parlent de l'histoire des gouvernants. L'histoire des gouvernements. Donc, une histoire d'un pays, c'est il y a eu ce gouvernement, il y a eu la monarchie, il y a eu la république, etc. Mais les voix des paysans et des paysannes qui étaient les protagonistes de cette histoire, on les entend jamais. Donc, déjà, dans les chants, on a ces voix. Donc, on a essayé de construire cette histoire. Effectivement, les sources, oui, c'est des livres, c'est des discussions. C'est des discussions avec d'autres personnes qui étaient un peu plus cultivées. On a abandonné tout de suite la prétention de faire une histoire ponctuelle d'Italie. Nous, on raconte que les épisodes de cette histoire qui sont représentés par des chansons. Sinon, on serait tombé dans un travail immense. On n'est pas des historiens. On n'a pas l'accès aux archives. Donc oui, on a fait ce qu'on a pu avec les sources qu'on avait, mais sans se mettre trop la pression d'être exhaustive, de vouloir tout raconter. Bon, au début, oui, on avait cette pression et tout de suite, on s'est dit, mais c'est pas grave. Si on veut creuser un peu plus, on peut le faire. En particulier, ce deuxième chapitre, moi, j'ai découvert en écrivant cette histoire, en faisant les recherches, c'est l'époque de l'histoire d'Italie moins racontée dans les livres d'histoire. Parce que c'est délicat, c'est la montée du fascisme. C'est quelque chose qui, évidemment, en Italie, c'est quelque chose qui est encore, ça fait encore peur. Ça fait encore peur de voir comment ça montait en une époque où il y a une fragilité, il y a des énormes déceptions, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a l'émigration, il y a tout ça. Comment c'est facile pour le populisme de chevaucher la colère, la déception pour instaurer 20 ans de dictature. Ça, c'est actuel. Et c'est difficile à en parler, c'est difficile à expliquer comment on est arrivé du début du siècle avec plein d'espoir pour le progrès, l'économie qui commence à marcher mieux, les paysans qui commencent à avoir une reconnaissance et les socialistes qui rentrent au Parlement. Et en une vingtaine d'années, on arrive à une dictature fasciste. C'est ça que c'était pas facile à reconstruire, cette histoire.
Moi, je voudrais rajouter quelque chose qu'il y a en Italie, qu'on a sans doute moins en France ou différemment, c'est que les chants populaires sont extrêmement présents, étaient extrêmement présents. Le taux d'analphabétisme était beaucoup plus important qu'ici. Et donc, les chants avaient une vraie fonction de communication, étaient extrêmement importants. Et comme ils étaient très développés et qu'ils se sont... Il n'y a pas eu de coupure. Ils ont été transmis longtemps. Ça fait que c'est vraiment une approche de l'histoire qui est beaucoup plus facile en Italie, qui serait sans doute plus difficile à faire ici. En tout cas, les chants sont moins vivants, on pourrait dire ça. Après, ça dépend évidemment des endroits de la France. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a ces chants-là dans toute l'Italie. Donc nous, on a des chants du sud de l'Italie, on a des chants du nord de l'Italie. Et donc, ça donne énormément de points de vue.
Les mains plongent dans les caisses. Crac,
ils trouvent des sacs pleins d'or.
Crac, et pour gouverner, comment faire ?
Voler, 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 toujours voler.
Si affondano le mani nelle casse.
Crac.
Si trovano sacchetti pieni d'oro.
Crac.
E per governare come fare?
Rubar, 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 sempre rubare. I nostri governatori sono tutti malfattori che rubano tutto quanto per farci da tutor.
Noi siamo tre ladri tutti e tre che per aver rubato ci han fatto cugini del re.
Si tu voles une miche à un garçon boulanger,
crac, tu t'en vas tout droit en tôle et sans honneur.
Crac, si tu voles par contre quelques petits millions,
tu te vois nommé commandeur.
Wow.
Se rubi una pagnotta un cascherino,
crac,
te ne vai dritto in cella e senza onore.
Crac.
Se rubi invece qualche milioncino,
ti senti nominar commendatore. I nostri governatori sono tutti malfattori, ci rubano tutto quanto per farci da tutor.
Noi siamo tre celebri ladroni che per aver rubato ci han fatto senatori.
Mazzini, Garibaldi e Masaniello.
Crac!
Erano tutti quanti malfattori.
Crac!
Gli onesti sono loro i cuciniello. Pelluggio, Litti, Crispi e Lazzaroni.
I nostri governator sono tutti malfattor. Ci rubano tutto quanto per farci da tutor. Noi siamo tre, ladri tutti e tre. Che per aver rubato ci ha fatto cucini del re. Noi siamo tre, ladri tutti e tre. Che per aver rubato ci ha fatto cucini del re. Noi siamo tre, celebri ladron. Che per aver rubato ci ha fatto senator.
Les chants, ils avaient un rôle social pour pouvoir dire des, exprimer des choses qui ne pouvaient peut-être pas être dites aussi simplement, pour soulager, pour se soulager, pour partager des émotions. Et c'était des chants de travail. C'était dans les champs, en effet, mais c'était aussi dans les usines, et ça avait une fonction. Mais c'est quelque chose qui est aussi présent, qui existe aussi en France. On a des chants de fileuses aussi en France. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus, peut-être plus facilement accessible avec ce travail de collectage qui a été fait en Italie. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait en France. Il existe beaucoup de collectage et il y a une grande richesse de ces chants-là. Mais j'ai l'impression que c'est plus, c'est moins facilement accessible.
Là, donc, il y a eu le deuxième épisode. Est-ce qu'il va y avoir un troisième épisode?
On ne sait pas. On ne sait pas. Effectivement, la matière pour faire des épisodes, on pourrait faire même deux, trois épisodes encore après ça. Mais on ne sait pas encore. Ça dépend des envies. Là, déjà, vu que cet épisode, ça fait longtemps qu'on les travaille, ça fait longtemps qu'il est prêt, mais qu'on n'a pas pu les jouer parce qu'on sort des deux ans dans lesquels on ne pouvait rien faire. Ben, là, on a envie de proposer ça. On a envie de les faire tourner. Après, on se posera la question. On ne sait pas. Peut-être, peut-être.
E i figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti in Brasile, e non si ricordan più di ritornare. Ancor qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America a emigrare. Ancor qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America a migrare.
Il secolo presente qui ci lascia, il 1900 s'avvicina,
la fame l'ha dipinto sulla faccia.
J'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de vous, de votre groupe et de comment vous vous êtes rencontrés tous les trois. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a réunis? Est-ce que c'est la passion de ce projet-là qui vous a réunis ou pas?
Non, pas spécialement. On est des amis depuis longtemps et puis on partageait une pratique du chant. On s'est rencontrés autour du chant.
Toi et moi, c'est la première fois qu'on travaille ensemble et on s'est rencontrés autour de ce projet-là.
Ouais.
C'est Lorenzo et moi, on s'est rencontrés sur un autre trio italien autour du chant. Après, il se trouve qu'il y a des affinités qui font qu'on a plaisir en plus à travailler ensemble, ce qui est une grande richesse. Mais moi, pour moi, c'est une rencontre qui a été musicale, l'objet de notre rencontre.
Et oui, il faut dire que le projet, le premier chapitre, c'était avec Laila Sage. Avec qui on a une association qui s'appelle Terra Canto. Et avec Laila, moi je suis arrivé en France il y a 6 ans. Avant, moi, si je faisais des spectacles, c'était plutôt pour un public italien. Là, on s'est posé la question, est-ce que ça pourrait marcher un spectacle sur l'histoire d'Italie à travers les chants de lutte? Ben oui, pourquoi pas, on va l'imaginer. Et on s'est dit, mais on a besoin des complices. Et cette complicité, ça ne peut pas se faire simplement sur une question technique. On ne cherchait pas des bons chanteurs ou des bonnes chanteuses. On cherchait des femmes parce que l'histoire qu'on raconte, c'est une histoire, pour la plupart, c'est une histoire des femmes et c'est des chants de plupart des femmes. Mais nous, on a toujours compris qu'il fallait quelqu'un qui était complice aussi sur les idées qu'on porte dans ce spectacle. Donc, qu'il fallait une affinité, je peux dire politique déjà, pas par rapport à son positionnement politique, mais par rapport à l'écoute qu'il faut avoir. Parce qu'on dit souvent que ces gens-là, c'est des gens qui n'avaient pas de voix et qu'on donne la voix à ces gens-là. Pas du tout. Ces gens-là, c'est des gens qui avaient des voix très puissantes. C'est juste qu'il n'y avait pas d'écoute. Et donc, nous, on a essayé d'écouter ces voix. Donc, cette approche à l'écoute de ces voix, l'intérêt à ce que ces voix nous disent encore aujourd'hui, aux propos qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Donc, ça ne suffisait pas des personnes passionnées des chants populaires comme quelque chose qui reste dans un musée, mais des personnes qui vivent dans leur vie aussi, les contradictions qu'on raconte dans les spectacles et avec lesquelles on peut partager des discussions. Pour moi, personnellement, quand j'ai écrit le spectacle et je l'ai imaginé, pour moi, ça a été fondamental de discuter avec ces personnes parce qu'il y avait des choses que je pouvais donner par acquis et que pour un public italien ou pour un marché, ou des choses qui n'étaient pas trop claires ou des choses qui étaient dites d'une façon dont tout le monde n'était pas d'accord. Donc, à partir de l'écriture, il y a eu une évolution collective. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose dont on s'est approprié collectivement. Ce qu'on peut faire avec des complices, des collègues, je ne sais pas comment, des camarades, on pourrait dire comme ça. Donc, on était assez exigeant dans la recherche, mais je peux dire qu'on a trouvé vraiment les bons complices.
Volisse diventare suricillo in ennane. Volisse diventare suricillo in ennane, peli rosicare sti catene, come strignano li vene, come fanno schiavo. Peli rosicare sti catene, come strignano li vene, come fanno schiavo.
Volisse diventare un pesce spada, un nenane. Volisse diventare un pesce spada, un nenane. Portare tra lo fondo del mare sti nemici nuovi, per poterli subito squartare tra lo fondo del mare sti nemici nuovi.
Volisse diventare una palomma in ennane, volisse diventare una palomma in ennane, per poter libera volare, inguacchiare li divise tutte piemonti. Per poter libera volare, inguacchiare lì divise tutte piemonti.
Volesse diventare una camorra in ennane.
Volesse diventare una camorra in ennane. Pesce dare a tutta quella gente che non ha capito niente che ci sta a guardare. Pesce dare a tutta quella gente che non ha capito niente che ci sta a guardare.
Volesse diventare una bandiera in ennane.
Volesse diventare una bandiera in ennane, e dare uno colore a questa guerra, cara libera sta terra che ci fa morire. E dare uno colore a questa guerra, cara libera sta terra che ci fa morire.
Volesse diventare un brigante in ennane, volesse diventare un brigante in ennane, che possa sulla la montagna scura per te fa sempre paura fino a quando mor. Caposta sulla la montagna scura per te fa sempre paura fino a quando mor.
Et ce type de chant, c'est quand même particulier, ce sont des polyphonies aussi, donc pour associer vos voix, c'est une technique un peu particulière. Est-ce que vous voulez m'en parler aussi?
C'est un chant, oui, c'est des chants en polyphonie, donc à plusieurs voix. C'est des choses qu'on faisait déjà les uns et les autres avant de se rencontrer sur ce projet-là. Donc c'est une pratique, ça s'est fait assez facilement dans cette rencontre-là musicale autour de ce projet. C'est une expérience qu'on avait déjà, et la rencontre des timbres et des voix, c'est une envie qu'on avait, un plaisir qui s'est fait assez facilement et naturellement, je pense.
Et à la base, c'est des chants qui, on peut savoir par les collectages si c'était chanté en polyphonie. En gros, un peu partout en Italie, si on chante à plusieurs, on fait plusieurs voix. Dans les mondes populaires, c'est une pratique assez courante. On peut l'écouter encore dans les collectages. On a des chants qu'on a pris par les collectages et qu'on essaie de refaire plus ou moins comme sont faits dans les collectages. Il y a des chants qu'on a harmonisés. Il y a des harmonisations modernes, mais on essaie toujours de rester dans des codes. des codes d'harmonisation qui sont propres aux régions où les chants ont été chantés. Pas pour une question de conservation à tout prix rigoureuse, mais déjà parce que ça nous plaît beaucoup, cette façon de chanter. Et il y a une efficacité de l'harmonisation et de la musique par rapport aux paroles, que ça serait tellement difficile de refaire d'une façon autrement efficace. Ben, vaut mieux les faire comme elles sont. Souvent, c'est dans la simplicité. C'est linéaire, c'est simple, il faut dire des choses. Le but, c'est de dire des choses que tout le monde comprend. Donc, peut-être qu'il n'y a pas des harmonisations hyper recherchées. C'était pas ça le but. On essaye de rester dans cette simplicité, oui.
Dernière question sur ce qu'on vit, l'époque que l'on vit aujourd'hui, et puis cette montée aussi qu'on sent de l'extrême droite. Et justement, vous proposez de faire un focus sur une période de l'histoire où il y avait vraiment cette montée. C'est une manière de dire, attention, les choses se sont déjà déroulées, attention à ce qui pour arriver bientôt, dans quelques mois d'ailleurs.
Ce qui est sûr, c'est que il y a de toute façon une résonance. Il y a une résonance avec ce qu'on raconte. Il y a cette histoire d'extrême droite, mais il y a aussi beaucoup des histoires de migration. On raconte des histoires de migrants avec des chants très poignants. Il y en a un en particulier où on raconte l'histoire d'un naufrage. Et ben, quand on fait ce spectacle, c'est arrivé plusieurs fois que des personnes qui avaient traversé la Méditerranée soient extrêmement émues et bouleversées par ce qu'on raconte. Donc il y a, voilà, moi je pourrais dire ça, que ça résonne. Après, nous, on le dit pas. C'est tellement évident qu'on n'a pas besoin de le dire, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que, de toute façon, un peu l'intérêt de l'histoire, c'est de mettre en regard notre période, de voir d'où est-ce qu'on vient, de voir où est-ce que certaines dynamiques peuvent mener. C'est un peu l'intérêt de je pense, quoi, de l'histoire en général. Sinon, il ne s'agit pas d'être conservateur, quoi. C'est même pas juste pour le folklore, ou c'est pas ça. C'est parce que si ça nous anime, c'est bien parce que ça parle aussi d'aujourd'hui.
Et par rapport aux luttes plutôt économiques, Donc là, on parle des luttes plutôt des paysans contre les patrons. Donc on parle des luttes dans lesquelles c'est plus facile peut-être pour cette époque-là de reconnaître deux classes distinguées qui luttent l'une contre l'autre. Aujourd'hui, c'est moins facile de voir ces classes, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe encore. Ça existe encore et souvent les stratégies qui sont utilisées pour affaiblir ces luttes, pour continuer dans l'exploitation, sont exactement les mêmes qui étaient utilisées à l'époque. Donc oui, moi je pense qu'il y a de l'actualité. Comme disait Céline, nous on n'a pas besoin de la souligner forcément. À la fin de chaque spectacle, on a des retours par rapport au public, des discussions, et chacune trouve des liaisons tellement nettes et tellement claires à l'histoire d'aujourd'hui. Et ça, je peux le dire aussi en positif par rapport aux valeurs de ces chansons. Donc, on nous demande, mais pourquoi des chansons si vieilles? Mais oui, parce, moi, personnellement, je trouve très touchant les paroles de ces chansons et de comment elles étaient chantées, etc. Ça révèle comme une espèce d'époque dans laquelle on pouvait se permettre de rêver un monde différent. Parfois d'une façon naïve. Dans les chansons, c'est dit d'une façon naïve. Mais qu'est-ce qu'on a perdu en perdant cette naïveté, en devenant si cynique aujourd'hui? Personne chanterait ça dans les chansons, parce que c'est comme si tout le monde a un peu perdu cet espoir que cette lutte contre le capitalisme qui est partout et qui nous bouffe nos vies, mais qui pourrait dans une chanson dire des choses si claires et nettes comme à l'époque? Bon, c'était une époque où on pouvait se permettre de rêver d'un monde différent. Et aujourd'hui, c'est moins facile. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je trouve plein d'énergie dans ces chansons, plein d'espoir en les chantant. Donc, c'est des outils pour moi. Ce n'est pas que des choses qu'on présente pour voir comment c'était avant, comment c'était beau. C'est encore aujourd'hui. C'est pour ça aussi que on s'occupe aussi des transmissions. Donc, on fait des stages, etc. pour transmettre ces chansons. C'est des chansons qui, pour moi, soufflent de l'énergie, soufflent de l'enthousiasme et de la motivation.
Merci beaucoup.